Je voudrais dire, avant que le conférencier prenne la parole, sur pourquoi une conférence sur le maquis d'Ornano. Tout le monde connaît le maquis d'Ornano, et il suffit pour cela d'ailleurs de prendre la route de Montricou sur le plateau et de s'arrêter au monument qui honore la mémoire des 9 résistants qui ont été fusillés le 21 mars 1944. Donc tout le monde connaît ça. Mais à Saint-Antonin, pas forcément beaucoup plus, d'autant que les contemporains de cette histoire ne sont plus là, pour la plupart, je pense, et que nous n'avons pas, nous, l'Association des Amis du Vieux Saint-Antonin, consacré jusqu'ici beaucoup de place à ce sujet. J'ai consulté notre bulletin, on trouve sur 75 ans un seul article consacré à la résistance, et encore c'est un peu latéral, il s'agit simplement de la vie de Lucien Mourat, qui a été un résistant dans notre région, il était à Fénérolles, et il y a un article dans le bulletin de 2007. Ça ne suffit pas à épuiser le sujet. Ce qui est à l'origine de cette conférence, c'est en réalité un contact que j'ai eu moi-même avec Gino Pessotto, responsable de l'AVQR, qui a produit une vidéo sur le sujet maquis d'Ornano, et ceci a aussi une origine dans les contacts qu'ils ont eus avec Patrice Castel, le conférencier d'aujourd'hui. Je le laisserai se présenter, je dirais simplement que c'est un historien qui s'est intéressé et spécialisé dans les sujets de la Seconde Guerre mondiale et de la résistance dans notre région. Il s'expliquera davantage là-dessus tout à l'heure. Voilà, je pense que c'est un sujet qui a une certaine actualité, qu'on avait des raisons aussi de le faire. Vous savez qu'après-demain sera inauguré à Paris un musée de la libération de Paris. Vous savez qu'il existe un musée de la résistance à Montauban. D'ailleurs, il a demandé à venir. Il est peut-être présent parmi nous. Et ce n'est pas seulement un sujet de musée, bien entendu, parce que c'est une histoire qui est aussi une histoire encore vivante. Voilà. Je ne vais pas davantage développer sur les raisons qu'on pourrait avoir aujourd'hui de s'intéresser à cette histoire de la résistance, d'une résistance. Je pense que c'est le conférencier qui éclairera ce point. Et je lui donne la parole. Patrice, à vous.
Merci beaucoup. Bonsoir, mesdames et messieurs. Pour préciser les choses, je suis professeur d'histoire et géographie dans un lycée professionnel agricole. Je m'intéresse aux questions d'histoire et de mémoire de la résistance et de la déportation depuis quelques décennies, on va dire maintenant. Je tiens d'abord à remercier Thierry Leroy pour son accueil. Gino Pessotto et Étienne Poussou également, qui m'ont accompagné dernièrement sur le terrain, où je me suis rendu avec grand plaisir. Je n'avais pas pu le faire depuis le début des années 90, mais mes souvenirs sont bons. Voilà, j'avais ces quelques souvenirs de ruines du côté de la Bourriette et de la Hautanelle en particulier. Voilà, j'ai retrouvé ces lieux avec une immense émotion. C'était le 5 août, exactement. Je remercie également les représentants de l'Amicale du Maquis d'Ornano, s'ils sont présents dans la salle, je suppose que c'est le cas. Et je note en particulier la présence de M. Élie Molinier, dit Georges, un ancien du Maquis. Je suis très sensible à sa présence au premier rang ce soir. Les présidents d'associations patriotiques, j'ai aperçu le représentant du souvenir français du Tarn-et-Garonne en particulier, les représentants du musée de la résistance de Montauban, je crois qu'ils étaient annoncés, je ne sais pas s'ils sont là, ils sont là, effectivement. Voilà. Je rappellerai très rapidement le contexte de cette conférence. Je crois qu'il est important de souligner que nous commémorons ces jours-ci les combats de la libération de la région. C'est l'occasion de rappeler, d'une part, le devoir de vigilance face à la bête immonde, qui est encore vivace, malheureusement, et la fidélité aux valeurs et au projet sociétal de la résistance. J'évoquerai en particulier le programme du Conseil national de la résistance, les jours heureux. Ce programme sociétal qui est très important à mes yeux et pour lequel ces jeunes combattants ont versé leur sang. Ils avaient 20 ans à peine, j'aurai l'occasion de le rappeler dans quelques minutes. Voilà, ce sacrifice n'aura pas été vain, je l'espère, même si nous sommes en droit de douter par moment, hein, puisque notre société actuellement est malade, pour ne pas dire en péril. Voilà, donc j'aimerais que nous célébrions ce soir l'esprit de résistance, Nous faisons société ce soir dans cette salle avec à l'esprit ce combat qui reste étonnamment d'actualité. Avant-dernier point, avant que je commence mon exposé, je vous ai amené un objet. C'est l'arme emblématique de la résistance, et plus exactement du maquis. C'est une reproduction, je vous rassure, elle est totalement inoffensive. C'est un pistolet mitrailleur Sten, MK2, dite mitraillette Sten, une arme qui est particulièrement rustique, qui était très facile à fabriquer. Elle a été fabriquée à 4 millions d'exemplaires pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été parachutée après le 6 juin 1944 à 200 000 exemplaires au sein des maquis. C'est une arme d'infanterie hein, de calibre 9 mm avec un magasin de 32 cartouches. Voilà. C'est l'une des armes utilisées par les membres du maquis normando. Voilà. Vous pourrez peut-être la manipuler tout à l'heure si vous le souhaitez. Et j'ai porté cette arme parce que je voulais préciser qu'en tant qu'enseignant, je suis très attaché à la dimension médiation historique que peuvent constituer ces objets, que je fais manipuler à mes élèves très fréquemment. Et ça permet une entrée vraiment ludique dans l'histoire. Voilà, ils sont très friands de la manipulation de ces armes en particulier. Et je fais moi-même de la reconstitution historique et militaire en tenue d'époque. Voilà. Et dernier point concernant ce préambule, je voudrais dire que je n'ai pas recherché l'exhaustivité en préparant cette conférence parce que le sujet a été largement documenté, en particulier par l'historien local, André Lacombe, qui est parmi nous, que je voulais saluer également, qui me fait l'honneur de sa présence. J'ai plutôt cherché à apporter des éléments nouveaux, vous allez le voir au fil de cette conférence, sur les parachutages, sur l'implication de certaines personnes, des collaborateurs en l'occurrence, qui sont à l'origine de l'attaque du 21 mars 1944. Voilà. Donc le maquis d'Ornano MP1 entre mémoire, histoire et transmission. Le plan que je vous propose ce soir pour cette conférence sera en trois points. Se réapproprier une mémoire, un impérieux devoir d'histoire et comment transmettre cet héritage. Se réapproprier une mémoire, j'en dis deux mots très rapidement, il me paraît très important de souligner que, il me semble, hein, je me trompe peut-être, mais il me semble qu'à l'échelle du territoire aujourd'hui, quelque chose est en train de se mettre en place sous l'égide de l'amicale du maquis d'Ornano, de l'association que dirige Thierry, des amis qui travaillent sur la question de l'aménagement des sentiers de randonnée, par exemple. J'ai le sentiment que cette mémoire du maquis d'Ornano est sur la voie de la réappropriation. Et ça, c'est une très bonne chose. Dans le contexte, je le rappelais, hein, mémoriel actuel. Cela, néanmoins, nous engage à faire preuve d'un impérieux devoir d'histoire pour être le plus clair possible sur ces questions, tenter de nous approcher le plus possible de la vérité historique pour éviter les attaques dont la résistance fait l'objet malheureusement depuis de nombreuses années maintenant de la part des négationnistes, des révisionnistes. Donc ce travail me paraît vraiment fondamental. Et le troisième volet, comment transmettre cet héritage, ben, nous verrons que, en particulier à travers l'aménagement de sentiers thématiques, de conférences comme celle que je tiens ce soir devant vous, il est possible de nous adresser aux nouvelles générations, puisque c'est ça l'enjeu. Voilà. C'est aussi le travail que font des associations patriotiques. Je citais le Souvenir français il y a quelques minutes. Voilà, c'est vraiment une démarche qui me paraît très importante à mettre en œuvre aujourd'hui. Alors, se réapproprier une mémoire, c'est commémorer, c'est lutter contre l'oubli. Serge Ravanel, ancien chef régional des FFI en R4, disait, je le cite, « La résistance fut d'abord un combat pour des principes, le patriotisme, la liberté, un combat d'hommes imprégnés d'un esprit de responsabilité à l'égard de la société. Ce à quoi l'historien Gilbert Badia répond en quelque sorte, je le cite, « Le devoir de mémoire est indissociable du travail d'histoire pour rapprocher la vérité et lutter contre le révisionnisme et le négationnisme », ce que j'indiquais précédemment. Ce travail de mémoire, de réappropriation collective de la mémoire, a été mis en œuvre par l'amicale du maquis d'Ornano. Vous avez ici une photo qui le rappelle. Alors, pour ceux qui le connaissent, le mémorial du maquis, le monument qui est sur le plateau, a fait l'objet de travaux d'aménagement complémentaire, en particulier l'installation d'une stèle en avril 2005, sur laquelle figure un texte que je vais vous lire. Vous l'avez également sous les yeux. Composé d'une quarantaine de réfractaires OSTO, le maquis d'Ornano MP1 avait pour mission de réceptionner l'armement parachuté. Dans la nuit du 21 mars 1944, alors que les maquisards récupérèrent du matériel sur le plateau de Vinchette, deux colonnes ennemies encerclent la forêt de la Garrigue et occupent les points stratégiques. Plusieurs défenseurs placés au poste de garde perdent la vie dans cette attaque surprise. Cependant, les premiers coups de feu alertent les maquisards de Vinchette qui parviennent à se replier. Le maquis d'Ornano fut reformé à Saint-Amand-de-Pélagal avant son intégration au 3e régiment de hussards en septembre 1944 qui participe aux campagnes des Vosges et de l'Alsace jusqu'à la libération de la France. Voilà, c'est un résumé qui permet quand même de se faire une idée assez précise de l'importance de ce maquis sur le territoire. Nous allons essayer d'aller un peu plus loin, bien entendu. Dans le territoire d'implantation du maquis d'Ornano, MP1, de sa création à l'attaque du 21 mars 1944, c'est tout ce territoire, en fait, situé à l'est de Montauban, de Corbarieux au plateau qui surplombe Saint-Antoine-Nobleval, puisque nous allons voir que, en quelque sorte, la préhistoire du maquis d'Ornano, c'est la réunion d'un groupe de réfractaires OSTO, service du travail obligatoire, institué au mois de février 1943, dans le secteur de Corbarieux, au château de Beaudésert. Bon, j'aurai l'occasion de le développer, mais dans un premier temps, nous allons lancer un extrait du film Le Maquis d'Ornano, qui a été réalisé par l'association Vidéo Quercy Rouergue. Je le présente ici, dans sa jaquette, le fameux DVD. Donc, c'est un travail de collecte que je voulais souligner. Il est très important à mon sens, et il préfigure la réappropriation collective de cette mémoire que j'évoquais. Nous allons vous montrer, en l'occurrence, l'extrait qui concerne l'attaque du 21 mars 1944. Et ensuite, j'essaierai de faire une rétrospective pour vous rappeler quelles sont les origines de ce maquis, quelles étaient les conditions de vie des maquisards, etc.
De Marie-Thérèse à Marie-Louise, un ami viendra ce soir.
Alors pour le 21 mars, on avait la confirmation, nous étions partis de la brouillette de nos deux camps, puisque ceux qui étaient à la brouillette étaient... Nous sommes partis à l'Hôtel. Nous sommes partis à l'Hôtel avec un camion d'une personne de Saint-Antonin, M. Delpech, qui nous prêtait son camion pour ramasser les conteneurs. Et ce jour-là, nous sommes partis avec ce camion. C'était d'ailleurs Charlemagne qui était le chauffeur qui conduisait ce camion. Et nous étions une trentaine, je crois une vingtaine qui étaient sur le terrain, qui était chargé ou qui serait chargé de ramasser les conteneurs qui seraient parachutés, et une dizaine qui était de garde. Alors la garde, normalement, c'était quand on faisait le parachutage, nous donnions le plus d'importance au parachutage. Et on laissait une personne ou deux ou trois au camp, et tout le personnel était au parachutage, parce que parachutage, il fallait le ramasser le plus tôt possible, le charger, le décharger et l'amener chez là où il était mouflé. 2 ou 3 heures du matin, on a entendu un ronflement de ce côté de Saint-Antonin, vous pouvez voir le côté. Au bout d'un moment, on entend un coup de mitraillette, un coup de fusil, et puis après une détonation.
Mais par deux colonnes militaires allemandes, et la première colonne arrivée de par Saint-Antonin, en réalité elle venait toutes les deux d'Albi, mais elle s'était divisée. Une attaquée de par Saint-Antonin, par la route de Saint-Antonin, et l'autre attaquée de par Peine.
Et ces Allemands, normalement, ils venaient à l'attaque du maquis, non pas du parachutage, on n'avait pas su, mais l'attaque du maquis, et on les a arrêtés, ça a été une chance pour nous qu'on ait eu le parachutage, parce qu'ils se sont arrêtés sur place. Ouais. Et là, pendant deux heures, les Allemands, pensant probablement que nous étions beaucoup plus nombreux que 20 malheureux ou 30 malheureux qui étaient avec tant de mitraillettes, ils sont restés sur place et ils se sont installés, si l'on peut dire.
Il y en avait partout. Il y en avait partout, là.
C'est-à-dire?
Je ne peux pas dire. Mais... Et ils étaient nombreux, oui.
Et pendant une heure ou deux, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire qu'ils commençaient à nous entourer. Et alors ça, ça correspond exactement avec l'horaire de l'autre colonne. Nous l'avons arrêté vers 3 heures. C'est cette colonne-là, normalement, elle était probablement prévue pour attaquer le camp de l'Otanel, qui était un peu plus près de la route, et celle qui venait de Penn, c'était tout pour le camp de la Bourriette. Et ça, c'était prévu probablement pour l'attaquer vers 8 heures du matin. C'est ce qui s'est passé à la Bourriette. Il était 8 heures, et à peine un jour, quand les Allemands ont tiré.
Et les autres de garde sont allés donner l'alerte. Et évidemment, le groupe s'est replié vers la Bourriette. Mais en ne sachant pas s'ils étaient vraiment attaqués, parce que le convoi pouvait être un convoi allemand qui passait sur la route, tout simplement. Et donc, ils ont laissé un homme en faction au bout de la colline pour prévenir s'ils arrivaient. Seulement, ils n'avaient pas prévu qu'ils seraient attaqués par deux côtés. Et donc, cet homme a été pris, c'était Olive, il a été pris par ceux qui arrivaient de Verpel. Il n'a pas eu le temps d'avertir.
Ils s'étaient attaqués. Et là, ils se sont défendus. Ils se sont défendus. Et ils se sont défendus, ils se sont battus. Et la chance en plus encore, notre chance, qu'ils se soient battus, que ces trois malheureux se soient battus.
Parce qu'ils ont retardé.
Parce que les Allemands comptaient arriver sur un camp qui ne bougeait pas. Ils ont été aussitôt, ils ont tiré, mais aussitôt la réponse a été immédiate. Ils ont dû dire, ils ne sont pas avec un petit groupe, c'est probablement déjà bien armé. Et alors, nous, le groupe qui sont partis de la Bourriette sur l'Otanel, un groupe de 40 ou 50 personnes, c'est pas rien quand même, ça se voit. Mais ils ne sont pas venus sur nous. Ils sont partis sur l'Otanel.
Ouais,
pendant que ces trois tiraient, ces trois, ils ont maintenu les Allemands à l'attaque.
Voilà. Et comme ils faisaient soleil, ce jour-là, les canons, ils luisaient. Là. Et mon grand-père, il m'a dit, tu vois, celui-là, là-haut, il va pas aller loin. Hein. Il va tomber.
L'Allemand ?
Eh oui, ils en ont bien tué. Les maquis, ils se sont pas laissés tuer, ça ne tuait personne. Hein. Ils l'ont attrapé à deux, un par les mains, un par les pieds, ils ont balancé ça sur le camion, et voilà.
Et c'était bien calculé de leur part, parce qu'à 8 heures du matin, nous n'étions pas dormis, endormis, mais enfin, on se levait. Et si nous avions entouré comme ils commençaient de le faire, avec une garde, habituellement, on n'avait pas une garde complète, je crois qu'on a eu, ça nous aurait coûté très cher.
En fait, ce parachutage a sauvé.
Ce parachutage l'a sauvé, exactement. L'a sauvé là, sinon, je pense qu'il serait arrivé sur le camp à 8 heures du matin. Et là, on avait une garde la nuit. Mais il n'y avait pas une garde renforcée. Hein. On n'avait pas un bon nombre de tous les 100 mètres. Et ces Allemands en question,
Ils ont tiré, mais de très loin. Et ils tiraient sur la maison. Mais il y avait, on voyait que nous, on partait, on s'est retardé. Enfin, quand le groupe est parti, ils sont reculés d'une centaine de mètres. Et il y a cet objet, là où est le monument actuellement. On est passé pour ce terrain. Et les balles, on voyait les balles. Personne n'a été touché. Et il n'y avait pas de quantité de balles parce qu'ils tiraient de très loin. Et ils tiraient au fond sur la maison. Et alors, je pense qu'ils ne pensent pas, je ne sais pas comment ils sont allés là. Moi, je ne sais pas vu, puisque. Après, je suis parti avec les deux autres. Quand ils ont pu se tirer, je suis parti avec. Et là, moi, je suis resté assez loin. Puis quelques temps après, on avait un entendu des grands bruits. Ils ont démoli une partie de l'hôtel sur la bourriette. La bourriette également. Ils tirent au canon. Hein. Oui. Et nous, on n'était pas là. Nous étions à 500 mètres de là. Oui, nous étions plus en danger. Nous avions, les Allemands étaient sur les uns étaient sur la bourriette, et là, il y avait des copains qui se battaient, et ceux qui sont arrivés à l'Odanel, je ne sais pas la réaction des Allemands. Ils ont tiré de très loin, donc comme s'ils avaient voulu nous avertir que nous arrivions, j'en sais rien. En tout cas, ils nous ont donné le temps de partir. Et après, quand ils sont arrivés là, sur la brouillette, sur le tunnel, ils devaient penser que nous étions dedans, je suppose.
Donc ils ont décidé de partir, de se disperser. Ils se sont dispersés par petits groupes. Alors ils sont allés un peu partout. Ils se sont un peu accrochés avec les Allemands. Il y en a un, Charlemagne, qui avait eu... Il est tombé sur un groupe d'Allemands. Bon, il s'en est sorti à coup de grenade. Et alors, il y en a qui, à mon avis, il y en a qui ont flâné un petit peu. Ils se sont fait coincer devant la grange. Au moment de partir, les Allemands leur ont tiré dessus. Ils se sont repliés dans la grange. Et de là, ils ont tiré tant qu'ils ont pu, tant qu'ils ont eu des munitions. Mais après, ils n'avaient plus de munitions. Et les Allemands n'ont pas hésité. Ils leur ont envoyé avec un mortier. Ils ont incendié la grange. Et ces trois, les trois qui étaient dedans, sont morts. Ont été tués sans doute, et puis carbonisés. D'autres sont revenus chez eux avant de se regrouper plus tard. Mais bon, ils ont rejoint d'autres maquis. C'est pour ça que nous avons proposé de faire un DVD pour essayer d'abord auprès des enfants, le distribuer dans les écoles, et puis pour les gens, pour qu'ils sachent, parce que j'ai l'impression que ça doit s'oublier.
Contre nazis et miliciens, sans discours et sans travail, se battant dur, se battant bien, des forêts aux barricades, ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, jeunesse du pays.
Voilà, 10 minutes alors que le film dure à peu près une heure. On en reparlera tout à l'heure. C'est une avant-première. Voilà.
Bien, je reviendrai dans quelques minutes sur l'épisode tragique de l'attaque du 21 mars 1944, dont vous avez la chance d'avoir un des derniers acteurs parmi nous ce soir. Alors, nous évoquons maintenant la deuxième partie de cette conférence. Un impérieux devoir de mémoire. Donc je vais essayer de faire une rétrospective des éléments d'histoire du maquis d'Ornano MP1. Premier maquis de l'armée secrète, vous avez l'insigne de l'armée secrète à l'écran. Alors, quelques précisions utiles tout d'abord, des éléments de terminologie. On entend parler d'armée secrète, d'Ornano, de MP1. Ce sont des choses qu'il faut essayer de préciser dans un premier temps. Donc l'armée secrète, C'est une structure de combat, pour faire simple, qui est issue du regroupement de formations paramilitaires des trois plus importants mouvements de résistance de la zone sud, Combat, Libération Sud et Franc-Tireur, dont vous avez sûrement entendu parler. Et début 1944, l'armée secrète est intégrée dans les forces françaises de l'intérieur. Elle est de tendance gaulliste, bien entendu. Ornano, pourquoi le maquis porte ce nom? En fait, c'est un hommage à un combattant, le lieutenant-colonel Jean Colonna d'Ornano, qui a participé au combat au Tchad, aux côtés du général Leclerc. Et il a été tué lors de l'attaque de Mourzouk en Libye, le 11 janvier 1941. Le chef du maquis étant lui-même un militaire de carrière, il a été extrêmement sensible au sacrifice du lieutenant-colonel d'Ornano et il a donc choisi de donner son nom au maquis en question. MP1, alors pourquoi cette codification? Le maquis a été créé le 23 août 1943 afin de regrouper de jeunes réfractaires au STO, je l'ai déjà précisé. Le maquis d'Ornano est le premier maquis de l'armée secrète du Tarn-et-Garonne, avec différents lieux de cantonnement, Penne, Saint-Antonin-de-Beauval, Casal. On l'a aussi appelé maquis de Penne ou encore un maquis de Casal. Et le 10 octobre 1943, ce groupe devient la 4e section des corps francs de libération du Tarn-et-Garonne et il est homologué officiellement sous le nom maquis d'Ornano MP1. Donc, la préhistoire du maquis, je l'ai intitulé de cette façon, c'est un épisode à mettre en lumière, même s'il est extrêmement court dans l'histoire de ce maquis. C'est le dénommé Tarzan, hein, c'est son pseudo dans la résistance, qui va regrouper de jeunes réfractaires au STO, au château de Beaudésert, à Corbarieux. Je l'ai situé il y a quelques minutes sur la carte. La date officielle du maquis étant malgré tout le 23 août 1943, avec un cantonnement à la ferme de Garan, près de Penne. Et à ce moment-là, c'est Roger Rigaud, dit René, ou petit père, qui assure l'intérim après le départ de Tarzan. C'est le plus âgé du groupe, donc il prend le relais tout naturellement. Et petit père est arrêté le 16 mai 1944 à Montaigu de Quercy. Sûrement, je dis sûrement parce qu'il y a énormément de zones d'ombre qui sont encore à éclaircir, sûrement il compte parmi les 54 victimes du massacre de Buzet-sur-Tarn le 17 août 1944, où des détenus de la prison Saint-Michel ont été massacrés puis brûlés par les SS. La ferme de Garan, voilà, vous l'avez ici, certains d'entre vous la connaissent sûrement, une jolie gentilhommière du XVIIIe siècle. Près de Penne, sa propriétaire est parmi nous peut-être ce soir, elle s'était engagée à venir, je ne la vois pas. Alors, les cadres du maquis et ceux qui constituent le noyau en quelque sorte de ce maquis d'Ornano MP1, dont j'ai retrouvé cette photo dans les documents qui ont été produits par Louis Olivet et ses camarades, en particulier bien sûr les anciens du maquis. Lédé, cofondateur du maquis, Gilbert, instructeur, Jacques, chef du maquis, petit père, donc Roger Rigaud, adjoint de Jacques, Georges, l'intendant, et au deuxième rang, Perrin, un des chefs de l'armée secrète. Louis, service des atterrissages et parachutages, le SAP, dont je parlerai dans quelques minutes. L'abbé Rousseau, un ami du maquis, il est présenté ainsi. Coufignal, cofondateur du maquis. Pernaud, dit Tom. Et Barahona, fondateur du maquis, je l'évoquerai également dans quelques minutes. Alors, les effectifs, la vie quotidienne, très succinctement, hein, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, c'est passionnant, mais j'ai d'autres aspects à évoquer. 70 hommes à peu près se sont succédés au maquis, ils étaient 46 exactement début mars 1944. Vous pouvez retrouver très facilement dans la documentation que j'évoquais la liste des membres du maquis. Vous avez les noms de famille, vous avez les pseudos qui correspondent. Ils sont d'origine géographique très diverse. On y compte également des étrangers, hein, des Allemands, des Autrichiens, des Belges, des Espagnols, des Italiens. sous le commandement de Jacques Rabhi, dit Jacques. Ces hommes vont rencontrer des difficultés très importantes en termes de ravitaillement, de restrictions. Il y a peu d'armes au début, et ça, nous pourrons en avoir la confirmation, je suppose, avec M. Moulinier. On le voit très bien sur les photos, les quelques photos prises à l'époque. Hein, on a des armes d'infanterie qui ont été parachutées ou qui ont été récupérées ici localement, quelques mousquetons, quelques revolvers, voilà, des armes qui datent un peu, qui restent fonctionnelles, mais rien à voir avec les armes qui ont été parachutées par la suite, surtout après le 6 juin 1944, par les Alliés, en particulier les Britanniques. Ce que l'on peut déplorer, effectivement, ils l'ont fait déjà à ce moment-là, les maquisards, c'est le manque d'armes lourdes, d'infanterie. Des fusils mitrailleurs, des mortiers, des bazookas. Voilà, les maquisards en ont été privés pendant très longtemps. Le quotidien, il est fait de formation militaire, il est fait de patrouilles, de recherche de ravitaillement. Hein. On a des maquisards qui vont visiter les fermes avoisinantes et qui vont négocier assez rapidement, moyennant finance, puisque de l'argent est parachuté également, ce qui va pouvoir améliorer l'ordinaire. Et on se rend compte, malheureusement, que l'ordinaire se résume à peu de choses. Je vous lis, alors je cite cette revue que l'on trouve très difficilement aujourd'hui, la revue Résistance R4 qui a été publiée dans les années 70 à 12 exemplaires par d'anciens résistants. Et moi j'ai retrouvé un article très intéressant rédigé par France Ferral, qui était une enseignante historienne locale, qui fait encore date, hein, cet article. Voilà, donc il est très intéressant dans la mesure où il a permis de compulser des témoignages de membres du maquis. Alors je vous lis des extraits, hein, tour à tour. Un maquisard note dans son carnet, par exemple, menu bien frugal aujourd'hui pour des jeunes de 20 ans, à midi bouillon, oignons cuits et quelques châtaignes, et cela avant d'aller prendre la garde pendant plus de 2 heures sous une pluie terrible. Alors, ponctuellement, cet ordinaire pouvait être amélioré grâce à l'aide, à la complicité d'artisans locaux, de commerçants, le boucher, le boulanger en particulier. Le 11 novembre 1943, pour commémorer l'armistice de la Première Guerre mondiale, le menu est le suivant. Soupe, escalope de veau pané, purée, côtelette de mouton, haricots, une épaule et gigot de mouton, crêpe avec marmelade de pomme, du vin à volonté, et demi-quart d'eau de vie pour chacun. Donc vous voyez que c'était quand même exceptionnel. Voilà, donc c'était dans ce contexte extrêmement difficile de la vie sur le terrain, qui nécessitait une certaine rusticité, vous l'imaginez, pour des jeunes de 20 ans. C'était un véritable rayon de soleil, c'était un moment qu'il fallait absolument partager, fraternellement, hein, avec ses camarades de combat. Idem pour la Saint-Sylvestre. Voilà, 31 décembre 1943, le menu, saucisse, poulet, huître, vin blanc, vin rouge. Voilà. Il arrive qu'il y ait également des visites. Alors des cadres de l'armée secrète, hein, de la résistance, des cadres régionaux, des aviateurs alliés qui ont été... pris en charge par les réseaux d'évasion, hein, ils traverseront par la suite les Pyrénées, j'en parlerai dans quelques minutes sur le troisième volet de cette conférence. Le 12 janvier, par exemple, 2 aviateurs américains arrivent de la région parisienne, leur avion a été abattu au-dessus du Bourget, ils ont été pris en charge, et ils passent quelques jours au sein du maquis. Il y a une levée des couleurs avec l'hymne français, la Marseillaise et l'hymne américain. Voilà. Donc les deux hymnes retentissent sur le plateau, en français et en anglais. Je pense que ça a été un moment, je ne sais pas si Monsieur Molinier y a assisté à cet événement, mais ça a certainement été un événement particulièrement marquant dans la vie du maquis. Dans l'émission du maquis d'Ornano MP1, elle consiste en plusieurs choses. Recrutement et réception des parachutages en lien avec le service atterrissage et parachutage. Donc recrutement, c'est-à-dire les réfractaires au service du travail obligatoire qui souhaitaient rejoindre la résistance pouvaient le faire via certains contacts, bien entendu, vous en doutez. À ce moment-là, ils étaient pris en charge par les cadres du maquis. Ils subissaient a priori un interrogatoire assez poussé pour éviter toute tentative d'infiltration, de noyautage du maquis. Et ça aussi, j'aurai l'occasion de l'évoquer dans quelques minutes. Il y a quelques suspicions qui portent sur un personnage en particulier qui était membre d'un maquis du côté de Caylus, qui avait un rôle d'agent de liaison et qui connaissait parfaitement les lieux de cantonnement de tous les maquis de la région. Voilà, le personnage en question était membre du SD. Les cantonnements successifs, donc fin octobre 1943, le maquis s'installe quelques jours au lieu dit Les Alberts, une bergerie qui est située à 2 km de Garan, mais les risques sont trop grands pour différentes raisons. Nouveau lieu de cantonnement, la ferme de la Bourriette, que vous avez vu dans le film qui vous a été présenté, actuellement en ruine. Les parachutages. Début décembre 1943, le terrain de parachutage Volcan est homologué par les services alliés Homo Arma Depot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce terrain peut recevoir du personnel, donc des gens qui sont parachutés, des agents de liaison, des saboteurs. J'évoquerai un saboteur tout à l'heure. Il peut recevoir des armes, bien entendu, et il va faire fonction de dépôt d'armes. Alors, pas sur le terrain lui-même, bien entendu, vous vous en doutez, mais à proximité, la grotte du Capucin, les fours à chaud de Saint-Antonin-Nobleval. Avant chaque parachutage, il y a un message personnel qui est diffusé par les ondes de la BBC. Concernant Volcan, c'est « Elle pleurait comme une fontaine ». Terrain de secours, Volcan peut recevoir des largages intéressant les autres équipes de réception du Tarn-et-Garonne. C'est-à-dire que des avions peuvent être déroutés pour différentes raisons et larguer leurs armes et divers équipements sur le terrain Volcan. Le terrain de parachutage doit être compris dans un rectangle de 400 sur 300 mètres minimum, en lisière de forêt, éloigné des villages et routes fréquentées, et à au moins 4 km d'une garnison ennemie et 25 km d'une base aérienne ennemie. Et vous vous doutez pourquoi, bien entendu. Début 1944, des balises Eureka, la balise Eureka est ici, sont livrées. Elles permettent d'entrer en contact avec l'avion à 80 km de distance. Elles sont complétées par un S-phone, que vous avez ici, un contact radio entre le pilote de l'avion et le chef de terrain permet la finalisation de l'approche. Ce matériel a été utilisé par exemple pour le largage des parachutistes en Normandie dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Voilà, c'est un matériel qui a été déployé par ce qu'on appelle les Pathfinders, hein, les éclaireurs de la 82e et de la 101e division aéroportée américaine. Idem chez les Britanniques de la 6e division aéroportée. Les armes et matériels divers, l'argent, ça peut être également le cas, sont largués par principalement l'avion Halifax. Alors, c'est un bombardier quadrimoteur. Les Britanniques l'appellent avec affection Alibag à ce moment-là. Hein, c'est l'avion qui est chargé de larguer des paquets. Alors il y a deux escadrilles, hein, plus exactement, de la Royal Air Force qui sont chargées de ce travail. C'est le 138e Squadron et le 161e. Voilà, les deux vont être impliqués dans les parachutages sur le terrain volcan. Très bel avion pour ceux qui sont passionnés d'aéronautique. Donc deux largages sur le terrain volcan, deux parachutages, le 7 mars 1944 et dans la nuit du 20 au 21 mars 1944. Donc, j'ai retrouvé ces éléments dans les archives du plan Sussex. Le plan Sussex, en fait, c'est un plan qui a été mis sur pied par les services alliés. C'est un plan d'infiltration d'agents en territoire ennemi. Voilà. Et en particulier ce qu'on appelait les équipes Jetburg, qui étaient composées de Français et d'Anglais et d'Américains. C'était des équipes de 3 personnes. Il y avait un chef d'équipe et un radio, voilà, systématiquement. Donc ces équipes Jetburg étaient parachutées en territoire ennemi pour venir en soutien aux maquis, hein, organiser la guérilla, former les maquisards au maniement des armes et des explosifs. Alors, le Halifax largue en principe 15 containers de 150 kg et jusqu'à 29 paquets. Ce qu'on appelle des paquets, en fait, ce sont des paniers en osier. Hein, ça se présente sous cette forme. Et donc, ça peut contenir des vêtements, des produits alimentaires, voilà, tout un tas d'équipements dont les maquisards ont besoin. Les armes étant parachutées en règle générale dans des conteneurs. Hein, vous allez voir à quoi ça ressemble dans quelques secondes. Ça représente une charge quand même de 2,5 tonnes à 3 tonnes. Les terrains arma-dépôt ou homo-dépôt nécessitent une très importante organisation avec la veille qui est assurée en permanence. Hein, normalement, c'est 24 heures sur 24. Les hommes sont obligés de se relayer. Les moyens de transport doivent toujours être présents ou immédiatement disponibles. Et là, en l'occurrence, le maquis disposait d'un camion. Et les caches peuvent recevoir un tonnage également très important. Donc, vous imaginez bien que sur un plateau calcaire, où vous avez de nombreuses grottes, en particulier la grotte du Capucin, ça va permettre de stocker un armement et un matériel très important. Les batteries de l'Eureka étaient rechargées chaque jour. C'était le seul lien avec Londres ou Alger, puisque les forces françaises libres étaient également basées à Alger, des parachutages ayant lieu depuis la base de Blida en particulier. La présence d'un maquis était obligatoire pour assurer la sécurité du terrain, et c'était donc la mission principale du maquis d'Ornano MP1. Alors, 10 et 11 mars 1944, la RAF a tenté, ces deux nuits-là, deux nouvelles opérations sur volcan. Mais les conditions météorologiques étaient trop mauvaises, le parachutage a été annulé. Le 20 mars 1944, la BBC annonce pour la nuit un double parachutage et l'arrivée d'un ami. Un ami, c'est un agent du BCRA ou un agent britannique ou américain. Et le maquis d'Ornano se transforme en comité de réception. Deux agents du SAP sont présents, Morin, qui est adjoint régional de Sultan, le chef opération de la région R4, qui se charge de l'utilisation du S-Phone, et Pierre Ostruy, qui assure le fonctionnement de l'Eureka. Perry, qui est le chef du 3e bureau de l'état-major de l'armée secrète du Tarn-et-Garonne, est chargé des liaisons avec le SAP. Il dirige le comité de réception et met en place le balisage. Alors, le passage du sergent Masson, dit Trémy, un saboteur du BCRA, il a été parachuté sur le terrain volcan le 7 mars 1944. Je l'évoque, ce personnage, parce qu'il est très intéressant. Il va participer au sabotage des installations de la poudrerie à Toulouse les 27 et 28 avril 1944, enfin, dans la nuit du 27 au 28. Il est trahi par un ancien résistant passé au service de la Gestapo, le sinistre Georges Pujol, qui a été commissaire inspecteur aux renseignements généraux à Montauban. Masson est arrêté le 1er juillet 1944 au bar de la Poste, rue de Rémusat, à Toulouse, en compagnie de 7 autres personnes, dont Jean-Baptiste Giorgetti, qui est un de ses camarades du BCRA. Jean-Baptiste Giorgetti fait partie des 15 résistants qui ont été fusillés par les SS de la division d'Asreich au bois de la Reule, à Castelmourou, au nord-est de Toulouse, le 27 juin 1944. Masson, par contre, a été déporté et il est rentré. Les missions des maquisards sont donc multiples sur le terrain volcan, poste de garde, balisage du terrain. Alors ça se fait muni de lampes qui s'espacent de 100 mètres, le long d'une ligne, dans le sens du vent, et le chef de terrain prend position 20 à 40 mètres de la dernière lampe et émet l'indicatif en morse du terrain, ici la lettre V pour volcan, que vous retrouvez dans le film Le jour le plus long, pour ceux qui le connaissent, hein, ceux qui pratiquent le morse. Trois points, un trait. Hein. Ta, 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 ta. Voilà, c'est aussi le V de victoire. Attente dans les taillis en vue de la manutention des conteneurs. Voilà, donc principalement ces trois missions. Ici, vous avez une scène reconstituée. Alors, si vous allez sur le site Tempête sur les Alpes, c'est une association qui fait de la reconstitution historique et militaire. Donc voilà un peu quel était le travail des maquisards qui réceptionnaient les conteneurs qui venaient d'être parachutés. Vous voyez les deux maquisards ici qui montent la garde, voilà, qui surveillent les abords du terrain de parachutage, et les autres qui s'affairent à la réception des conteneurs. On a deux types de conteneurs, le conteneur type C, que vous avez ici, qui contient en général les armes longues, hein, le Lee Enfield, les bazookas quand les maquisards ont la chance d'en recevoir, etc. Et le conteneur type H, qui est en fait constitué d'une série de 7 cellules, voilà, qui sont reliées par une longue tige filetée. Voilà. Et vous notez qu'au bout de chaque conteneur, il y a un amortisseur, hein, qui va permettre de garantir le bon état de l'armement, du matériel qui est à l'intérieur, puisque ça arrive très vite au sol. À partir du 21 février 1944, après une alerte qui conduit à un court déménagement sur le plateau du Roach, le maquis réintègre la Bourriette et occupe également la ferme voisine de la Hautanelle. Ces alertes, c'est quoi en fait? Dans la majorité des cas, ce sont des patrouilles qui sont effectuées par les GMR, hein, ou par les miliciens. Voilà, on les voit rôder entre guillemets sur le plateau. Ils savent parfaitement qu'il y a des maquisards sur le territoire et ils font des patrouilles pour glaner du renseignement au passage, bien entendu. Voilà. Donc chaque fois, ça met le maquis en état d'alerte. La Hautanelle constitue un terrain de parachutage annexe. Ça, c'est à préciser également. Vous l'avez ici. Hein, au cas où un parachutage ne serait pas possible sur volcan, pour des questions météorologiques ou mécaniques sur un avion, etc., ou pour des questions de sécurité, le Halifax peut éventuellement larguer son chargement sur l'Hautanelle. Armes, munitions et explosifs sont transportés par camion et cachés chez le directeur des fours à chaux de Saint-Antonin. Alors on est dans un contexte de répression croissante. Hein. Nous sommes à la fin de l'hiver 1943-1944. Ça je voulais le préciser également. À l'échelle nationale, une collaboration s'est établie entre les autorités françaises et les autorités d'occupation. Le SS Auberg en particulier, et Bousquet, qui est le secrétaire général de la police de Vichy. La lutte contre le terrorisme, hein, comme on le dit à ce moment-là, mobilise de façon de plus en plus importante les forces allemandes, la Gestapo, la Wehrmacht et les forces françaises. C'est une ordonnance du 10 juillet 1942 qui va permettre véritablement de faire la chasse au maquis. Les choses vont s'accélérer à partir du début de l'année 1944. Darnan devient le secrétaire d'État à l'intérieur. Pour améliorer l'efficacité des forces du maintien de l'ordre, il ordonne en février 1944 la mise sur pied de corps francs mixtes qui comprennent des gendarmes, des GMR et des groupes francs, ce qu'on appelle la garde, et les GMR à nouveau. Ils renforcent leur potentiel offensif par des unités de la milice, la fameuse Frangarde. Et tout ça pour répondre en fait à une décision qui a été prise par le BCRA le 20 janvier 1944, décision de former des réduits dans les montagnes françaises, ce qu'on appelle des maquis mobilisateurs. Et les troupes de répression ne vont laisser aucun répit aux maquisards à partir de ce moment-là. Vous avez par exemple De Vaugelas, qui est dans le Limousin. Il dirige les GMR dans ce secteur. Il dit à ses hommes, par exemple, « Ayant participé aux opérations de Haute-Savoie, je puis vous affirmer qu'il n'y a aucune distinction à faire entre bons et mauvais maquis. Nous n'accorderons pas de quartier à ceux qui délibérément bravent l'autorité. » Je rappelle le contexte de l'époque. Le mois de mars, c'est la bataille des Glières. C'est du 31 janvier au 26 mars. La répression s'intensifie dès le mois de mai 1944 du fait de la présence de la 2e division blindée SS d'Asreich. Alors dans des documents, vous trouvez souvent la référence au SS concernant l'attaque du maquis d'Ornano le 21 mars 1944. Des SS peut-être, mais sûrement pas des éléments de la division d'Asreich puisqu'elle n'était pas encore présente dans la région. Elle arrive le mois suivant. Hein. C'est à partir du mois d'avril que la division est cantonné dans la région toulousaine et dans de nombreuses localités du Tarn-et-Garonne. Voilà. Si SS il y a, ce sont des agents de la Gestapo, plus exactement du SD. Hein. Je continue rapidement. Donc vous avez ici la carte du BCRA, hein, c'est un document d'époque qui indique où vont se situer les maquis mobilisateurs, c'est-à-dire à partir du 6 juin 1944 principalement, il va y avoir une montée en puissance de ces maquis avec des parachutages d'armes conséquents. L'idée, c'est de monter des opérations sur les arrières de l'ennemi. Alors l'attaque du 21 mars 1944, j'y reviens. Vous avez ici le plan d'attaque ennemi. Alors, je suis désolé pour la qualité du document. Ce serait beaucoup mieux en couleur, mais je n'ai pas réussi à trouver ou j'ai manqué de temps plus exactement pour confectionner quelque chose qui soit plus lisible. Je passe au suivant qui est un peu plus clair. Il est tiré de l'article de France Ferral d'ailleurs. Donc il y a deux colonnes ennemies qui arrivent dans la vallée. Et dont l'objectif est de prendre en tenaille le maquis d'Ornano. On les voit ici. Voilà. Une qui va partir vers Saint-Antonin et l'autre qui va partir vers Vaour et Pen pour remonter ensuite sur le plateau. L'idée étant de fermer la tenaille au niveau de la forêt de la Garrigue. Alors, on a évoqué également les Mongols. C'est le cas dans l'article de France Ferral et dans d'autres documents. Oui, je l'ai là. Je le montre en même temps si tu veux. Voilà, j'y reviens sur la carte. Donc, une colonne allemande venant d'Albi ou de Gaillac. On cite également Cahors. Donc là, je lance des pistes de recherche. Je vais les faire moi-même de mon côté, parce qu'il y a énormément de zones d'ombre concernant la provenance de cette colonne, de sa constitution également, hein, puisque on a parlé, par exemple, de Mongols. Alors, c'est quoi les Mongols en question ? Il faut savoir qu'il y a un régiment. Alors, je ne parle pas l'allemand. Hein, certains le parlent peut-être dans la salle. Un régiment de volontaires qui a été créé le 1er février 1944 à Castres. Ce qu'on appelle l'Ost Légion, hein, ce que les Allemands appellent l'Ost Légion, ou Légion du Turkestan, vous avez peut-être entendu parler aussi de la fameuse Légion du Turkestan, elle est composée d'anciens soldats de l'armée rouge à qui on a proposé le choix était délicat, hein. Soit de rester dans un camp de prisonniers, soit d'intégrer la Wehrmacht. Voilà. Alors, certains ont accepté. Alors, ils viennent du Turkestan, il y a des Géorgiens, il y a des Caucasiens du Nord, hein, et ils constituent ce que l'on appelle ce régiment de volontaires qui est basé à Castres. C'est le premier régiment de réserve du Caucase. Et à partir de mars 1944, il est basé à Albi. Ce qui corrobore l'hypothèse, si vous voulez, que cette colonne vient d'Albi, hein, à ce moment-là, pour se lancer à l'attaque du maquis. Et les fameux Mongols dont on parle, ce sont ces combattants qui viennent de l'armée rouge qui a été défaite au tout début de l'opération Barbarossa et qui se sont retrouvés dans des camps de prisonniers. Le 22 mars 1944, là c'est également un témoignage, Biffin, qui fait partie du maquis Birakeim, effectue une mission de reconnaissance dans la région de Saint-Antonin pour son chef, Camilla, et je le cite, il observe sur le terrain. Ayant été à la gendarmerie, le brigadier qui s'était rendu sur le lieu m'a déclaré avoir trouvé sur le terrain de la ferme de la Bourriette 3 morts, dont 2 ont été fusillés, 1 identifié, Bébert. Avoir aussi trouvé un autre camarade tué devant la ferme du passeur à Couirac. Après avoir pris tout le ravitaillement, les Boches ont brûlé les fermes de la Bourriette et de la Houtanelle. Les pertes des attaquants sont évaluées à 30 à 40 blessés ou morts. Voici la liste des traîtres qui nous auraient vendus. Alors, il y a un général en retraite, de quelque chose, voilà, une particule. Un Espagnol et Benoni, dont je vais parler dans quelques secondes, dont la voiture aurait été aperçue le lundi matin tournant autour du camp. Alors, le fameux Gabriel Benoni, le voici. Il est agent du LSD de Cahors. Il a le grade d'adjudant, Feldwebel. La particularité de Benoni, c'est qu'il est issu d'une famille gitane. Il est originaire du Sel. C'est une petite frappe, on va dire. Il a été condamné à 28 reprises pour divers faits qui lui sont reprochés. Larcin, viol, etc. Et il s'engage au sein de la LVF. Il va combattre sur le front de l'Est. Et une fois rentré en France, il intègre le SD, c'est-à-dire le service de sécurité du Reich. Hein, c'est une branche de l'ASS. Il intègre plus exactement le KDS, c'est un commando anti-maquis, hein, qui va travailler sur le terrain. Alors il s'appuie sur des informateurs locaux, donc on peut supposer que s'il a été aperçu à Saint-Antonin, quelques jours avant l'attaque du maquis, il venait peut-être à la pêche au renseignement, hein, il venait faire le tour de ses informateurs. Alors, petite précision le concernant, il est entré au SD de Cahors le 16 décembre 1943. Il s'en est pris principalement à des familles juives qui allaient être déportées, à qui il a extorqué des fonds. Ça pouvait aller jusqu'à 200 000 francs à l'époque. Il a commis plusieurs viols. Il fuit en Allemagne à la Libération et il est arrêté, jugé le 24 mai 1946 par la Cour de justice d'Agen et fusillé le 12 juillet 1946. Un autre personnage, Paul Leroy. Alors c'est de lui dont je parlais tout à l'heure. Et je précise bien l'hypothèse, hein, parce que ça reste à creuser. Lui, il est beaucoup plus jeune. Il est né en 1924. Il est parti travailler en Allemagne. Il a fait le choix de la relève en 1942. Il rentre en France, il a une permission, et il ne revient pas en Allemagne. Il préfère rester en France. Et il décide d'intégrer également le SD. Alors, là où ça devient plus intéressant, c'est qu'il est infiltré dans un maquis dans le secteur de Caylus. Ça se passe en décembre 1943. Il n'attire pas l'attention sur lui, parce qu'il fait le travail qui lui est demandé, la corvée de bois, il prépare les repas pour les camarades du maquis... Voilà, mais apparemment, il observe très bien, il écoute ce qui se passe, et il va devenir très rapidement agent de liaison pour le maquis, c'est-à-dire qu'il va être en contact avec tous les maquis du secteur. Voilà, il connaît parfaitement leur lieu de cantonnement. Il en déserte du maquis en question le 6 ou le 7 mai 1944, juste avant le début des opérations allemandes dans le nord du Lot. Vous avez peut-être entendu parler de la rafle de Figeac. Il va y participer. Il va participer à des interrogatoires musclés. Il portait alors un uniforme de sous-officier du SD, voilà, dont il était fier. Le 26 mai, il arrête un médecin dans un train entre Montauban et Caussade. Il était alors à la recherche du fameux chef FFI Chapou. Hein, voilà, ceux qui connaissent le département du Lot en ont entendu parler. Il est arrêté par la sécurité militaire fin juillet 1944 et étonnamment, il va bénéficier de non-lieu. Mais se trouvant à Dijon, il est reconnu par un ancien habitant de Figeac qui a été victime de la rafle en question. Donc à nouveau arrêté, jugé le 26 juillet 1945 par la Cour de justice du Lot, il est condamné à la peine de mort et fusillé le mois d'août qui suit. Alors, ils sont morts le 21 mars pour que nous puissions vivre libres. Je ne voulais pas terminer cette conférence sans citer les noms des jeunes maquisards victimes de la barbarie nazie. Albert Trichler, dit Bébert, 21 ans. Élie Labrousse, dit André, 22 ans. René Lartigue, dit Marius, 21 ans. André Digobert, dit Olive, 21 ans. Bernard Martel, dit Bertrand, 21 ans. Henri Granier, dit Henri, 21 ans. Et regardez ce sourire malicieux. Voilà, c'était un jeune homme qui ne demandait qu'à vivre. Et les barbares nazis ne lui ont pas laissé le temps, ni la possibilité. Citer ces six jeunes maquisards, c'est une chose. On ne pouvait pas oublier les autres qui ont compté pour le maquis. Louis Barahona, dit Baron, qui a été arrêté le 20 mai 1944, déporté dans le convoi du 2 juillet 1944, dit le train de la mort. Il est mort en déportation au mois de septembre 1944, donc il fait partie des fondateurs, hein, des cadres de ce maquis d'Ornano. Auguste Pernaud, dit Tom, tué au combat dans les Vosges le 20 octobre 1944. René Rigaud, dit Petit Père, arrêté le 16 mai 1944 et fusillé, je l'ai déjà évoqué. Et Marc Noir, dit Marc, tué au combat en Indochine le 18 octobre 1952, puisqu'il faut savoir que des membres du maquis ont fait le choix de continuer le combat, de s'engager au sein de l'armée française et de participer en particulier à la guerre d'Indochine. Alors, les lieux de retraite du maquis après l'attaque du 21 mars 1944, plusieurs groupes se sont formés. Le maquis a éclaté en quelque sorte, hein, dans différentes directions. Saint-Amand-de-Pélagal, Lozerte, voilà, ici, Montaigu de Quercy et Mouillac, entre Puy-la-Roque et Quélus. L'objectif étant de se mettre à l'abri, hein, de se mettre au vert, de se faire oublier quelque temps, puisque les troupes de répression étaient sur le qui-vive. Les archives du maquis Bir Hakeim font état également, mais je ne vais pas m'apesantir là-dessus, de la nécessité de prendre des mesures de précaution et de sécurité suite à cette attaque, puisque ça concernait tout le territoire. Alors, quelques constatations et interrogations, ça c'est très important. Que dire après cette attaque du 21 mars 1944 ? Il y a une étonnante coïncidence entre le parachutage sur Volcan et l'attaque ennemie de la Bourriette et de la Hautanel. On peut dire une coïncidence heureuse, M. Molinier l'évoquait. Le maquis réceptionnait un parachutage à ce moment-là. Si ça n'avait pas été le cas, si les hommes avaient été cantonnés à la Bourriette et à la Hautanel, l'attaque aurait été, je fais un peu d'histoire fiction, ça me dérange, mais on peut supposer que l'attaque aurait été une réussite. Hein, ça se serait fait au tout petit matin. les jeunes dormant tranquillement, très peu de monde étant au poste de garde. Je pense que ça aurait été particulièrement difficile pour les jeunes du maquis. Importance et disproportion des moyens mis en œuvre par les Allemands. Alors, selon les sources, on parle de 800 à 1500 hommes, deux colonnes. Les Mongols, que j'évoquais, mais sûrement des miliciens, des GMR, gardes mobiles de réserve, des agents du SD. On ne peut pas imaginer que les Allemands soient venus à l'attaque du maquis sans être guidés par des collaborateurs français, et en particulier des membres du SD. Benoni, dont je parlais tout à l'heure. Face à une quarantaine de maquisards. Hein, vous voyez cette disproportion. Alors, pourquoi cette disproportion? C'est assez fréquemment le cas dans les opérations de maintien de l'ordre et de répression. Les Allemands ont souvent le sentiment que le maquis est surarmé. Voilà, on fait énormément de suppositions du côté ennemi, et donc on va déployer des moyens considérables. Effectivement, ce n'était pas le cas. Hein, Monsieur Molinier nous l'a confirmé dans le film, vous l'avez entendu il y a quelques minutes. L'armement était vraiment limité à quelques armes d'infanterie, quelques armes légères, quelques grenades. Voilà, c'était très difficile de faire face à une attaque aussi soudaine et violente. Il y a beaucoup de désillusions aussi, du fait de la faiblesse des parachutages alliés. Alors, peu ou pas d'armes lourdes d'infanterie, hein, fusils mitrailleurs, mortiers, bazooka. Et dernière question que l'on peut se poser, quel niveau de renseignement et de complicité locale? Le plan de retraite du maquis semblait parfaitement connu par l'ennemi. Ça, c'est particulièrement troublant. Et donc, ça corrobore l'hypothèse qu'il y a des complicités locales. Voilà. Des gens ont sûrement réussi, peut-être pas à infiltrer le maquis, mais à glaner suffisamment de renseignements pour pouvoir les communiquer à l'ennemi qui a monté son plan d'attaque. Alors, je parlais de la désillusion. Un article paru dans le Daily Mail à la Libération, ça c'est un document que vous trouvez dans les archives du maquis qui ont été reprises par Louis Olivet en particulier. Alors je cite, nous les Britanniques et les Américains, avant tout, nous devons aux forces françaises de l'intérieur une dette de reconnaissance. Elles ont sauvé par leur action des milliers de vies, épargné à nos troupes des semaines de durs combats. Nous leur devons ensuite notre admiration, car bien des fois, les soldats du maquis ont été les seuls soldats alliés à ne jamais perdre contact avec l'ennemi. Et nous leur devons enfin, à mon avis, des excuses. Nous avons été trop longtemps aveugles à la force de l'arme qui, de l'autre côté de la Manche, était à la disposition de la cause alliée. Les membres du maquis d'Ornano MP1 après la libération de Montauban, avant de monter au front avec le 3e régiment de Hussards, voilà, il faut partir du principe que le combat se poursuit. Le territoire national n'est pas encore libéré, la guerre n'est pas terminée. Et donc, nombreux sont les membres du maquis qui font le choix de continuer ce combat au sein d'unités de l'armée française qui se reconstituent. Hein. Et là, en l'occurrence, c'est au sein du 3e régiment de Hussards. Et il faut savoir que le 18 octobre 1944, au sein de ce qu'on appelle la colonne Schneider, qui a été créée à Toulouse, les anciens du maquis se battent dans les Vosges, en l'occurrence à Cornimont. J'aborde le troisième volet rapidement. Comment transmettre cet héritage? Alors, je l'ai dit, il y a une réappropriation collective qui est en cours sur le territoire. Elle préfigure, à mon avis, un tourisme de mémoire et une transmission des valeurs de la résistance, tout particulièrement aux nouvelles générations. Alors, j'ai oublié d'évoquer tout à l'heure deux collègues qui font un travail très important localement, Laure Mézière et Jean-François Mavel. Voilà. Ils témoignent dans le film qui vous a été présenté. Alors, comment transmettre aux nouvelles générations? Ben, ça peut être dans le cadre de projets pédagogiques et éducatifs, bien entendu. L'aménagement d'un sentier de randonnée thématique, la reconstitution historique et militaire, la projection de films et des conférences. Alors, je vais donner quatre exemples pris dans la région, qui, à mon sens, sont porteurs et surtout reproductibles. On peut tout à fait les transférer sur un autre territoire, ici, par exemple, à Saint-Antonin et dans les communes avoisinantes, puisque Saint-Antonin n'est pas la seule commune concernée par le maquis d'Ornano. Une randonnée mémorielle sur les traces d'un groupe d'évadés, une nuit d'octobre 1943. Alors, au mois d'août 2019, c'était au tout début du mois, 24 jeunes franco-espagnols de l'MJC de Saint-Gaudens ont pu rencontrer ce qu'on appelle les évadés de France, hein, c'est-à-dire ces jeunes souvent réfractaires au STO, qui ont fait le choix d'une évasion à travers les Pyrénées pour aller rejoindre les forces françaises libres. Donc ces jeunes ont pu arpenter un chemin de la liberté oublié depuis près de 75 ans. Voilà, vous avez ici le témoignage de M. Mif Sud, qui est un ancien évadé de France. Il est devant les jeunes de la MJC. Deuxième exemple, l'aménagement d'un sentier à thème entre la France et l'Espagne. Là, on est dans une dimension transfrontalière, internationale. Ça va parler à Gino, j'imagine. C'est le chemin tracé entre Saint-Giron et Estéry d'Aneu. Voilà, le chemin de la liberté. Il a été inauguré le 8 juillet 1994. Avec une maison du chemin de la liberté à Saint-Giron, qui a été, elle, inaugurée en 2007, et qui a permis de dédier ce lieu de mémoire aux évadés et de se souvenir, afin qu'il devienne un lieu d'information pour toutes les générations. Vous avez ici, donc chaque année, les membres de l'association qui gère ce chemin, entre guillemets, qui marche sur les traces des évadés de France. Hein. Alors parmi les évadés, il y avait également des aviateurs alliés, il y avait des familles juives qui quittaient un territoire français occupé où régnait une grande insécurité. Donc c'est quand même 25 heures de marche hein, pour aller de Saint-Giron à Estéry d'Aneu. Troisième exemple, la reconstitution historique et militaire avec parachutage. Projection de films et conférences. Alors là, je fais référence à l'histoire de la mission interalliée Jetburg, Bugatti, dans les Pyrénées, dans le Comminges, avec le lieutenant-colonel Fuller des Marines, hein, USMC. On fait référence là au combat de Campels, c'est la commune d'Arbon, le 19 juillet 1944. Donc on a des maquisards qui sont attaqués également par une colonne ennemie, puissante colonne ennemie. Et grâce à l'implication de ce commando Jetburg, qui comprend un Américain et deux Français, le décrochage va être possible. Aucune victime côté maquisard. Des morts et des blessés, par contre, côté allemand, dont nous avons cherché à, je dis nous parce que je faisais partie de cette équipe, nous avons cherché à honorer la mémoire de ces trois membres du commando Jetburg et des maquisards, bien entendu. Ça a donné lieu à un partenariat élargi. Hein, alors ça fonctionne très bien. La commune d'Arbon, le conseil départemental de la Haute-Garonne, le souvenir français, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de la Haute-Garonne, la 11e brigade parachutiste, la réserve citoyenne. Alors moi, j'intervenais plus exactement en tant que réserviste citoyen. Et ça a donné lieu, voilà, à ce type d'action, reconstitution militaire sur le site. Vous avez des membres de l'association Les Oies Sauvages, dont je fais partie, en tenue d'époque, avec l'armement d'époque. Un parachutage qui était là pour rappeler l'arrivée du commando Jetburg sur le site. Donc là, la brigade parachutiste nous a considérablement aidés. C'était des commandos parachutistes du 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes. Prise d'armes, bien entendu. Et dernier exemple, le quatrième et dernier, les chemins de la République. Alors, il faut savoir que depuis 3 ans, le conseil départemental de la Haute-Garonne a fait le choix de renforcer son engagement en faveur de la promotion des valeurs et des principes républicains en s'appuyant sur les valeurs de la résistance. Voilà. Donc on a un itinéraire mémoriel qui relie 20 lieux toulousains chargés d'histoire et qui rend hommage aux femmes et aux hommes qui se sont soulevés contre la barbarie nazie. Alors vous en connaissez certains, hein, Serge Ravanel, je l'ai évoqué, qui était chef régional des FFI, Forain François Verdier, dont d'inaugurer une stèle à son effigie à Toulouse. Silvio Trentin, qui dirigeait le mouvement libéré fédéré. Angèle et Yves Bettini, Marie Zoulizistar, qui a été très impliquée dans l'évasion à travers les Pyrénées, etc. Voilà, donc c'est un parcours pour ne pas oublier et transmettre le message de ces combattants de l'ombre aux nouvelles générations. Je citerai également, parce que c'est assez méconnu je trouve, on évoque la résistance à Saint-Antonin et le maquis d'Ornano MP1. Il faut savoir qu'à Saint-Antonin, il y avait également un maquis FTPF. Il a été constitué au mois de juillet 1943 sous l'impulsion d'André de la Courtie, Arthur, Lucien Nollet et Louis Sabatier. Et ils ont, ces maquisards FTPF, plusieurs faits d'armes à leur actif, en particulier l'attaque de la gare de la Ville-Dieu du Temple, la participation à l'attaque de la prison de Gaillac, ça a permis l'évasion de nombreux résistants, l'attaque d'une colonne allemande et la libération de la pointe de la Grave. Donc les sources que j'ai utilisées, elles sont nombreuses, vous avez des sites internet qui m'ont permis de trouver les informations dont j'avais besoin, et bien entendu je citerai les derniers travaux de Grégory Bouys, l'encyclopédie de l'Ordre Nouveau, où j'ai trouvé les biographies de ces deux collaborateurs. France Ferral, bien entendu, avec cet article tiré de la revue Résistance R4 qui fait encore date. Bien entendu, les travaux d'André Lacombe et de Louis Olivet pour citer les érudits locaux. Voilà, je vous remercie.
Je vais donner la parole tout à vous, Ligné, au Fayot. Bien sûr.
Alors, je terminerai quand même avec cette citation de Lucie Aubrac, je vous la lis. Il nous avait volé la liberté et l'égalité, il n'avait pas pu interdire la fraternité. Cette fraternité qui était vraiment de mise au sein du maquis, c'est ce qui ressort des différents témoignages auxquels j'ai eu accès. Je vais peut-être donner la parole à André Lacombe, mon collègue historien local.
Oui, bonsoir à tous. Merci pour cette invitation. Effectivement, j'ai beaucoup travaillé sur les maquis de Tarn-et-Garonne, notamment le maquis d'Ornano, le maquis de Cavertat et le maquis d'Ornano, où j'étais ce matin encore avec pour faire visiter les lieux. J'y vais très souvent, j'amène beaucoup de monde. Et j'ai sorti récemment un ouvrage qui s'appelle « Ils sont morts pour que nous puissions vivre libres ». Voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ce que je peux ajouter, c'est que le soir du parachutage, il y avait le soir de l'attaque, il y avait un seul parachutiste qui a été un homme du CRA. Et on ignorait son nom jusqu'au mois de mars dernier. Et il s'appelait Georges Jouvens. Voilà. Son petit-fils est venu porter une photo sur la stèle d'Ornano, je l'ai donné à Élie Moulinier le jour de la commémoration. Et ce monsieur Georges Jouvin a été fait prisonnier à Limoges et il est parti en camp de concentration, mais il en est revenu. Voilà. Après, bon, je n'ai pas grand-chose à ajouter puisque vous avez à peu près dressé le topo de ce maquis. Alors, je précise, c'était le premier maquis de Tarn-et-Garonne. Mais malheureusement, ils se sont retrouvés à Le Tarn, parce que vous savez que quand on vient de Moricou et qu'on arrive à Saint-Antonin, il y a un petit crochet du Tarn qui passe chez nous. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque où le Tarn-et-Garonne a été créé par Napoléon, il a pris un morceau sur chaque département, et Le Tarn, il y avait des gens influents, ont refusé de donner un morceau du département, de leur département. C'est pour ça que nous avons une pointe ici du Tarn qui vient s'impliquer dans le Tarn-et-Garonne. Voilà.
Patrick Moron, j'aurais voulu savoir si tu avait pu interroger les archives allemandes, puisqu'ils sont très organisés, les Allemands, et en général, ils notent tout. Est-ce qu'on peut interroger les archives allemandes pour savoir de leur côté qu'est-ce qu'ils avaient organisé, qu'est-ce qu'ils avaient prévu réellement ?
Alors, c'est en cours, effectivement. Je l'ai dit concernant les fameux Mongols. Voilà, ça m'a permis de retrouver la trace de ce premier régiment de volontaires, hein, qui a été constitué à Castres et qui a été ensuite transféré à Albi. Donc, on peut supposer, sans risque d'erreur, que c'est cette unité qui a participé à l'attaque du 21 mars 1944. Voilà, je pense qu'elle a constitué vraiment le socle.
Et les archives anglaises du côté de ceux qui parachutaient?
Alors, il y a les archives du plan Sussex, hein, je les ai évoquées aussi, voilà, puisqu'on a les détails. Ça, je vous encourage vraiment à le regarder. C'est accessible très facilement via Internet. Vous avez, pour toute la période du conflit, c'est daté, voilà, les détails des parachutages effectués sur tout le territoire. Voilà, avec l'escadrille concernée, les coordonnées géographiques du terrain de parachutage concerné, quand il y avait du personnel parachuté, on a également leur identité et ce qu'il est advenu d'eux. Voilà. Par exemple, André Lacombe vient de le dire, on sait que cet agent a été arrêté à Limoges et ensuite déporté.
Alors, je voudrais juste dire un mot. Moi, je fais partie de l'amicale du Maquis d'Ornano et je suis vraiment très content que ce soir on parle du Maquis, parce qu'en fait, on a la cérémonie chaque année qui se fait à la stèle. Bon, ça tombe mal parce que ça, c'est en même temps que la cérémonie du 19 mars de l'ancienne Algérie. Bon, c'est pour ça qu'on va essayer cette année de décaler la date, en plus avant les municipales, pour qu'il y ait un maximum de monde. Mais il faut venir, c'est assez émouvant. Bon, Georges est avec nous, heureusement. On est des descendants. Moi, je voudrais juste dire un mot sur Albert Trichler, parce que nous, notre famille est concernée, on est des paysans, quoi. Et c'est ma grand-mère qui l'a récupéré. Je vais faire court, mais quand vous entendez le discours de Malraux par rapport à l'entrée de Jean Moulin au Panthéon, il disait « il savait tout ». Et lui savait tout. Donc, il a fait double sacrifice parce que ça a été celui qui a donné l'alerte en tirant les coups de feu, jetant les grenades. Bon, il a été attrapé vivant et il n'a pas parlé. Et il a été torturé. Bon, il est mort avec les autres. Mais il n'a pas parlé. Il a juste crié « Vive la France !» Si lui aurait parlé, et je sais que ma famille est grande, bon, ils avaient souffert pendant la guerre. Ma mémé était veuve. Le plus gros souci, c'était ils mouraient de faim parce qu'en fait, il y avait 10 enfants. Elle était veuve pendant la guerre. Donc, ce qu'elle faisait, elle était au maquis, faisait l'abattage clandestin. Et indirectement, ils ont fait rentrer Albert Trichler au maquis. Ce que je voulais dire, c'est que s'il avait parlé, je ne serais pas été là. Voilà.
C'est très important, votre témoignage, parce que ça met deux choses en lumière, à mon sens. Le fait qu'il faut évoquer ce que l'on appelle les soutiers de la gloire, c'est-à-dire voilà, ces jeunes maquisards qui étaient anonymes, hein, d'une certaine façon. Hein, ils n'avaient pas l'aura d'un Jean Moulin ou d'un Pierre Brossolette, bien entendu. Hein, mais ils ont fait un travail considérable et nous leur devons notre liberté actuelle. Et deuxième chose, à travers l'engagement de votre grand-mère, c'est la solidarité qui pouvait régner sur les territoires ruraux en particulier. Voilà, de nombreuses familles paysannes qui avaient peut-être des difficultés pour améliorer elles-mêmes l'ordinaire, mais qui n'hésitaient pas à donner des poulets, un veau, un mouton.
Bon, merci Eric pour la précision par rapport à Trichler. Alors, Je dois dire que l'idée du DVD, le point de départ de l'idée du DVD, c'est lors d'une assemblée générale du Maquis d'Ornano, de l'amicale du Maquis sur le site de la Bourriette, où tout le monde déplorait que les jeunes n'étaient pas au courant de ce qui s'était passé sur ce lieu quand même historique et très important. Et donc, comme je fais partie de l'association Vidéo Kersirouergue, j'ai appelé immédiatement Étienne Poussou, ici présent, en lui disant, est-ce que nous pourrions faire un DVD sur le Maquis d'Ornano? Ça a été un long travail. On a mis 3 ans avec beaucoup de contacts. Ici sont présents certains témoins qui figurent dans le film, Et donc, je tiens à les remercier parce que grâce à eux, on a pu réaliser un DVD qui est parlant et qui touche tout le monde. Voilà, merci à vous. Je tiens à préciser que nous avons réservé la salle des fêtes de peine pour le 8 novembre, pour la projection officielle.
Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Georges Espinosa. Je suis le maire de la commune de Casals, qui a été concernée et impactée. Je voudrais signaler aussi que tous les ans, donc, vers la fin du mois de mars, nous avons une messe en l'honneur de ces personnes qui ont donné leur vie pour que nous puissions profiter. Je citerai donc la commune de Peine et la commune de Montricou. Voilà. Merci.
Oui, bonjour monsieur. Je voudrais savoir quels avaient été les liens après ces épisodes là, dont vous venez de parler, avec la réunion qui a eu lieu à Saint-Amand sur l'ensemble des maquis de la région, notamment où l'abbé Glasberg, qui était curé à l'honneur de Causse, avait eu une mission de rassemblement. Est-ce que le maquis dont vous venez de parler était présent et comment ça s'est passé? Vous n'avez pas d'éléments?
Non, pas d'éléments sur ce point.
Cette fameuse réunion qui a eu lieu le 17 juin 1944, c'était la première réunion du comité départemental de libération, dans lequel à laquelle participait exactement l'abbé Glasberg et tous les chefs FFI et de la résistance de Tarn-et-Garonne. Et le maquis d'Ornano était là pour garder justement la ferme au cas où le maquis aurait été la ferme aurait été attaquée. Voilà, ça s'est passé dans la région de Mouillac, dans une ancienne tuilerie désaffectée, voilà, à la lisière d'un bois. Vous avez une stèle d'ailleurs sur le coin là-bas.
Gérard Casson. Vous n'avez cité que marginalement l'Office national des anciens combattants, en tant qu'ancien retraité du ministère des anciens combattants, dont l'Office est un établissement public. Le ministère aujourd'hui disparu et rattaché au ministère de la Défense. Je me permets de vous signaler que au service du patrimoine des archives et de la mémoire du ministère de la Défense, donc, il y a certainement des documents intéressants sur cette période et sur, peut-être pas le maquis d'Ornano, mais sur la petite histoire de la région. Nous avions en particulier une fiche très détaillée sur le camp de Sept-Fonds. Voilà. Une question aussi, vous n'avez pas évoqué la partition entre les différentes obédiences politiques, alors c'est peut-être un choix délibéré. Vous avez cité le gaullisme, mais il serait intéressant de rappeler que les maquis, ou l'histoire du maquis, a été partagée entre différentes obédiences, et notamment, puisque vous avez cité l'FTPF, le Parti communiste. Merci.
Oui, alors l'objet de la conférence, c'était le maquis d'Ornano MPN, donc il m'était un peu difficile d'évoquer toutes les obédiences politiques qui se sont retrouvées au sein de la résistance française, mais évoquant Saint-Antonin-Nombleval, il me paraissait une impérieuse nécessité d'évoquer le maquis FTPF, qui est devenu ensuite un maquis FTP Moy, hein, main d'œuvre immigrée, avec l'effet d'armes que j'ai évoqué. Voilà, j'ai souhaité le faire pour être le plus complet possible concernant l'histoire de la résistance locale, et puis peut-être pour donner des pistes en matière de valorisation ultérieure aussi, hein, sur le plan d'un aménagement de sentiers thématiques, par exemple, qui pourrait partir de Saint-Antonin, de l'agglomération. Voilà. Mais effectivement, si on raisonne à l'échelle nationale, l'apport des communistes, puisque vous les avez évoqués, a été très important. Ça, c'est une évidence. soit maquis FTP en zone rurale, soit en zone urbaine. Je travaille par exemple actuellement avec les anciennes de la cartoucherie à Toulouse, où il y avait un maquis urbain FTP, la 3402e compagnie, qui a fait un travail considérable.
Et le coup de génie du général de Gaulle, il faut le rappeler aussi, ça a été pour éviter la dispersion de tous ces maquis et l'utilisation hasardeuse des armes qui avaient été distribuées, ça a été de leur faire signer un engagement pour la durée de la guerre, lorsqu'ils le pouvaient.
Et l'intégration au sein des FFI.
Juste, je voudrais dire un mot. Nous, à l'Amicale, enfin, on remercie vraiment la VQR pour le travail qu'ils ont fait de collecte pour ce DVD. Mais on avait une idée, je ne sais pas si ce serait possible, de faire un QR code, parce que la roue tourne, les gens passent, mais si on pouvait faire un QR code, c'est-à-dire une empreinte sur le monument, et le passant, avec son smartphone, cliquerait sur le QR code, et il aurait une partie du DVD qui lui expliquerait cette histoire. Parce qu'il passe du monde, bon, vous parlez des sentiers, ça serait bien pour le futur, voilà.
Je voudrais revenir sur l'Office national des anciens combattants, si vous le permettez, parce que, effectivement, je l'ai évoqué peut-être très rapidement à travers le travail qui a été fait à Arbon. Donc là, c'était un partenariat. Je travaille régulièrement avec l'Office national des anciens combattants, avec Renaud Chouvert à Toulouse. Je présente chaque année dans mon établissement une exposition qui nous est prêtée par l'Office national des anciens combattants. Voilà, c'est vraiment un partenariat qui est extrêmement riche et il faut le souligner. Comme avec d'autres structures d'ailleurs, j'évoquais le souvenir français. Souvenir français de la Haute-Garonne, Charlie Mazeng, voilà, nous travaillons très fréquemment ensemble, vous le connaissez je suppose.
Bonsoir, je fais partie du personnel du musée de la résistance et du combattant de la ville de Montauban. Je voulais évoquer par rapport à ce travail de mémoire ce que nous faisons nous dans le cadre du concours de la résistance et de la déportation qui est un concours qui existe depuis les années 60 qui est ouvert aux classes 3e, 1ère et terminale dont nous accueillons régulièrement des enseignants et des groupes qui participent à ce concours. Nous avons dans la mesure du possible toujours une exposition ou un spectacle afférent au sujet du concours également. Il existe, qui avait été fait par l'Office des anciens combattants et André Lacombe ici présent, deux circuits, un sur le maquis de Cabertat, un circuit à faire en vélo ou en voiture, et le maquis d'Ornano également. Voilà, cette plaquette existe. Je ne sais pas si elle a été rééditée par l'ONAC, mais nous en avons encore quelques exemplaires, mais qu'en anglais. Voilà. Et je voulais évoquer aussi le bénévolat d'André, qui très régulièrement, on est sollicité par des enseignants du Tarn-et-Garonne et hors département du fait de la fermeture du musée de Toulouse pour travaux. Donc on a des établissements qui viennent d'Onde, de Cahors, Fronton, voilà, Cadour. Et assez régulièrement, ces classes souhaitent aussi aller sur les lieux de maquis. Et c'est très volontiers qu'André les accompagne ou sur le maquis de Cabertat ou sur le maquis d'Ornano. Et parfois aussi jusqu'à cette fond. Mais bon, maintenant, cette fond, il y a le relais qui est pris par la maison de la Mounière, voilà, qui évoque le camp de cette fond et les différents internés passés dans ce camp-là.
Je continue là-dessus. Je suis aussi au musée de la résistance de Montauban. Et vous parliez de médiation pour justement participer au devoir de mémoire. Il faut savoir que depuis maintenant 2 ans, on propose des animations en direction du jeune public, mais aussi des jeunes adultes, parce que les enfants, je dirais que c'est facile à les avoir, parce qu'on a les professeurs. Les populations âgées, je dirais, qui ont connu la guerre, etc., viennent facilement au musée. Là où on a plus de mal, ce sont les jeunes actifs. Donc pour attirer ces jeunes actifs, eh bien on passe aussi par le jeu. Et 2 années de suite, vous êtes sûrement au courant puisque les OA ont participé aussi à une des premières animations, nous avons mis en place un escape game, et en fait une, plus ou moins une murder party. Donc c'est à la mode, tout simplement c'est un grand cluedo si vous voulez, où il y a une énigme à trouver, enfin des énigmes à résoudre, et on part de l'histoire locale. Donc la première, c'était sur l'histoire de, en 14-18. On s'est servi de personnes qui ont existé dans le Tarn-et-Garonne et à Montauban. Et cette année, dans le cadre des 30 ans du musée, puisque nous sommes ouverts depuis 1989, nous avons réalisé une murder party sur le thème de Montauban le 1er juin 1944. Et on a utilisé donc des personnages, on a parlé du maquis d'Ornano, on a parlé du maquis de Cabertat, du sabotage, et on devait trouver aussi des lieux de parachutage. Donc voilà, c'est des choses, on passe par le jeu pour donner envie aux gens de connaître un peu l'histoire locale. Et au final, on a eu des personnes qui sont venues après dans notre centre de documentation pour faire des recherches. Donc ça, c'est aussi important. Le côté ludique, on peut être sérieux, pédagogique et ludique à la fois. Et ça marche très, très bien. Voilà.
Ah, donc, mais vous prêchez un convaincu.
Oui, parce que les voix étaient là avec d'autres associations.
Monsieur
on travaille régulièrement.
Les flashcodes, je pense que
le
recours aux nouvelles technologies s'impose aujourd'hui plus que jamais, parce que les nouvelles générations sont entrées de plein pied, je dirais, dans cette ère.
Et justement, on envisage justement de refaire la scénographie du musée en accent beaucoup plus sur le local.
Oui.
Voilà, puisque c'est une grande demande. Donc après Toulouse, ça sera Montauban.
Voilà, ensuite la reconstitution historique et militaire, bien entendu, et l'importance des lieux de mémoire. Voilà, ça a été largement évoqué par l'historien Pierre Nora, l'importance de se rendre sur les lieux de mémoire. Et c'est véritablement une façon de répondre aux attentes spécifiques des collégiens et lycéens aujourd'hui. Voilà, ils sont friands de ce type d'approche.
Et moi, j'ajouterais que je suis sûr qu'à Saint-Antonin, le groupe des sentiers, comme on l'appelle, finira par faire quelque chose dans ce secteur-là.
Oui, Jean-Pierre Amalric. Oui, je voudrais peut-être rappeler la mémoire et le travail accompli, le travail de recherche par une grande figure de l'histoire qui a passé une partie de son existence pas très loin, à Montpalache, et qui nous a quitté il y a maintenant quelques années, Roland de Trempé, qui a enseigné donc à Toulouse, à l'Université du Mirail, et qui a consacré des travaux à la résistance, et en particulier locale, et aussi au plan national. Voilà. C'était quand même une figure marquante qui méritait effectivement un souvenir. Et, alors, j'en profite peut-être pour poser quand même une petite question, mais n'étant pas très informé sur la question, c'est une question schéma. Est-ce que le maquis d'Ornano a eu des rapports avec le foyer de résistants qui existait au camp de Caylus, et sous la direction de son commandant, le commandant Normand, qui a d'ailleurs été déporté et qui a terminé, ou est-ce que c'était deux cellules qui ne communiquaient pas?
Je pense qu'il y a eu des contacts, je les ai évoqués à travers le rôle supposé de ce collaborateur, membre du SD, de Cahors. Oui. Lien, en un seul mot, lien plus ténu, me semble-t-il, avec le maquis Birakeim, dont les premiers éléments sont arrivés sur les lieux du combat le lendemain, à la demande du chef du maquis. On fait les premières constatations, parallèlement à celles faites par la gendarmerie de Saint-Antoine-Bleuval. Voilà, d'après les informations que j'ai, c'est... Je n'ai rien concernant, par contre, les liens qui pouvaient exister entre le maquis d'Ornano et le maquis FTPF. Voilà, ça serait intéressant à savoir également.
Voilà, s'il y a encore une demande de parole, on va bientôt terminer parce que je sais que c'est l'heure.
Oui, bonsoir à tout le monde. Le maquis de Birakeim est né dans la ferme que j'habite, quoi. Il est né à Saint-Cyr, essentiellement. Anciennement, ils s'appelaient le maquis moustache, et puis ils se sont repliés, et ils ont fait vraiment leur formation militaire là à Saint-Cyr. Voilà, ils ont fait des actions sur Caussade, et mon grand-père s'occupait donc des parachutages, parce que chez moi, des parachutages ont eu lieu. Mon grand-père, qui était un ancien pilote de la guerre de 14, a été remobilisé en 40 puisqu'il était parti avec les Bleus de France. Et puis il a été libéré, il s'est occupé de la résistance. Voilà. Et donc, on a évidemment de nombreuses anecdotes que j'ai communiquées à Madame Tellière le jour où ils sont venus nous voir. Bon, ma mère était vague-mestre du maquis. Mon père était aussi dans les maquis. Mon grand-père était FFI. Mon père était FETP. Ça faisait de l'ambiance. Voilà. Alors, le monsieur en a parlé derrière. Bon, de suite, ça me parle, quoi. Voilà.
S'il n'y a pas d'autres demandes de parole, je voudrais juste ajouter un mot pour ma part, pour vous remercier au fond Patrice Castel. Il se trouve que j'étais ami avec Serge Ravanel, dont vous avez beaucoup parlé. Ma femme aussi le connaissait bien. Et lui a consacré toute sa vie, après 45, à raconter cette histoire, surtout celle de la région. Mais il a couru toutes les écoles jusqu'à très tard. Il avait 90 ans quand il le faisait encore. Voilà, et bien vous faites le même travail, vous prenez le relais. Donc on vous félicite pour ça, merci. Mais...
Je le fais parce qu'il me paraît important de le faire, et je crois que je le fais également parce que je souhaite l'évoquer ce soir. Il y a des gens qui comptent énormément dans un parcours de vie, voilà. Moi, je suis un enfant de l'école de la République. Mon père était instituteur. Mon grand-père était secrétaire de mairie. Donc, les valeurs républicaines m'ont été transmises relativement tôt. Et j'ai eu des maîtres vénérés, on peut le dire, hein, des gens qui ont été très importants dans mon parcours scolaire et plus tard universitaire. Je voudrais citer Pierre Labouré en particulier. Voilà, Jean-Pierre Amalric évoquait l'université Jean Jaurès, anciennement université du Mirail. Pierre Labouré a beaucoup compté dans ce parcours universitaire.
Voilà, je dirais aussi, ne me demandez pas le DVD. On le diffusera après l'inauguration officielle, donc le 8 novembre de cette année.